l'automne dernier, une vieille femme médecine aveugle, Mareona E, Holy Woman en anglais, nous a menés à cet endroit. Elle prétendait y être déjà venue et en connaître le chemin. Avec mon cynisme habituel, je me suis moqué d'elle car en route, nos chevaux tournaient en rond. Apparemment, nous ne faisions que décrire des cercles concentriques. Voilà que nous suivons une aveugle aveuglément, avais-je déclaré sarcastique. Je ne croyais pas un mot de ce qu'elle prétendait, encore moins à l'existence d'un autre monde. Puis, tôt un matin, alors qu'une forte tempête se levait, elle a averti le camp que nous devions vite nous préparer au départ, non pour éviter la catastrophe, mais sous ses ordres, nous diriger droit sur elle. Ce fut une tempête comme nous n'en avions jamais vu. Une masse noire, hurlante et tourbillonnante, au sein de laquelle nous avons perdu la notion du temps et le sens de l'orientation. Dans un tel maelstrom, nous étions incapables de voir la tête de nos chevaux, encore moins nos amis et parents autour de nous. Cela a paru durer des heures. J'étais certaine que la vieille femme était folle, que nous étions tous voués à la mort. Pourtant, aussi vite qu'elle s'était levée, la tempête s'est calmée. Non pas graduellement, mais d'un seul coup. Et nous étions libérés. Elle a simplement pris fin. Le soleil brillait soudain dans un ciel profondément bleu, tandis que devant nous, de vastes herbages ondulaient doucement sous une brise légère. À cet instant, la pauvre Holy Woman que j'avais sournoisement ridiculisée et même maudite est tombée morte de son cheval. S'agenouillant auprès d'elle, Hall the Long Woman, sa petite fille et élève, a poussé un cri effroyable qui nous a glacé le sang. Si elle porte un tel nom, cela n'est pas pour rien. Aucun des Cheyennes, pourtant fins connaisseurs de leur territoire, et aucun des hommes et aucune des femmes médecines que nous avions parmi nous ne savait où nous étions. Mais nous étions si soulagés d'avoir survécu, de nous trouver dans cette vallée riante, qu'une forme de gratitude l'a emportée sur nos interrogations. Cela mis à part, j'ai demandé à Jacques Babi si, lors de sa prochaine venue, il ne pourrait pas me rapporter quelques livres, la littérature brillant malheureusement par son absence dans la vie indigène, au grand regret de celle qui, parmi nous, apprécie la lecture. Il existe cependant une riche tradition orale chez les Indiens. Certains d'entre eux, excellents conteurs, transmettent mythes, légendes et fables de génération en génération. Je crains pourtant que ceux-ci ne soient voués à disparaître, faute de pouvoir être conservés par écrit. Notre petite fille est née cet hiver. Oak et moi l'avons baptisée Heheheno Keso, Little Blackbird. Car contrairement à nous deux, elle a des cheveux très noirs, luisants comme les plumes d'un merle. À mesure qu'ils poussent, ils prennent différentes teintes, se parent de reflets verts foncés, bleus ou violets, selon l'heure et la lumière. Les merles à ailes rouges ont un chant merveilleux, gai et chaleureux. Ils sifflent et gazouillent dans les joncs des marais. Oak adore ces oiseaux-là. Il prétend que leur conversation est agréable, qu'ils sont pleins d'esprit et font de bons parents. Lorsqu'elle en aura l'âge, croit-il, notre fille s'envolera un jour pour nicher avec eux, plutôt qu'avec sa propre famille de rapaces. « Tu parles avec les merles ?» lui ai-je demandé.
« Bien sûr. »
« C'est la même langue que les faucons ?»«
Pas tout à fait, mais elles sont assez proches pour que nous puissions nous comprendre. »«
Et tu comprends toutes les espèces d'oiseaux ?»«
Non, certaines parlent des langues très différentes. »« C'est comme pour les tribus. Il y en a qui se ressemblent, du moins assez pour que nous discutions un peu, mais d'autres sont trop éloignées de la nôtre. »
Et ta fille apprendra le merle ?
Oui, et moi, je lui apprendrai à parler faucon.
Épatant ! J'aurai une fille bilingue, homme et oiseau.
Bil, je ne sais pas ce que cela signifie.
Peu importe. Malgré ce que j'ai appris auprès de Hawk, malgré notre sensualité qui s'épanouit tant dans mes rêves qu'au réveil, qu'il s'élève dans les airs et je brûle de désir, je reste fidèle à mon scepticisme naturel. Mes conceptions étriquées de femme blanche, selon l'expression de Gertie. Si j'accepte le fait que nous vivons à présent dans une autre réalité, je reste de marbre devant ces idées fantaisistes de mondes alternatifs et d'animaux qui conversent. Je serai donc ravie, ai-je expliqué à Hawk, que notre fille conserve ses beaux cheveux, noirs comme le plumage des merles, et qu'elle chante comme eux si elle le souhaite, mais j'espère bien qu'elle gardera ses ailes repliées et les deux pieds sur le sol. Lui-même semble ces jours-ci consacrer plus de temps aux oiseaux, même aux autres animaux, qu'au peuple, et particulièrement depuis que nous sommes ici. J'en viens à croire qu'il préfère la compagnie des premiers. J'ai de plus en plus l'impression qu'il s'écarte lentement de moi, et je finis par craindre qu'il s'envole un beau jour avec ma fille, me laissant clouer à terre, synonyme de liberté ou de prison. C'est selon. Il fallait bien que j'aborde un jour le sujet. Quand je rêve que je vole sur ton dos, ce n'est qu'un rêve ou c'est vrai ?
Comment ça, vrai ?
M'a-t-il demandé, visiblement perplexe. Je veux dire, cela arrive-t-il réellement ?
Je ne comprends pas. Bien sûr que c'est arrivé. Tu étais là avec moi, non ?
Si, mais...
Si ce n'était pas arrivé, tu ne serais pas ici aujourd'hui.
Certes, mais j'aurais pu avoir rêvé que je volais sur ton dos, que la douceur de tes plumes et la fermeté de tes muscles éveillaient le désir en moi.
Quelle différence entre rêver et arriver ?
M'a-t-il demandé, toujours perplexe. Il y en a une, et pas des moindres. Ta question est en fait, quelle différence y a-t-il entre les rêves et la réalité ? Eh bien, les rêves sont des moments que l'on imagine principalement en dormant. Et la réalité, ce sont des choses qui se sont vraiment produites, ou qui vont se produire, dans le monde réel, quoi.
« Je comprends maintenant »,
a-t-il répondu, assez content de lui.
« Je vais t'expliquer. Ce qui est rêvé et ce qui est arrivé, cela revient au même. Les deux mots sont synonymes dans notre langue. Tu as rêvé et c'est arrivé. Tu as rêvé que tu volais sur mon dos et c'est ce qui s'est passé. »
Il ne me paraissait pas utile de poursuivre mon questionnement. Pourtant, fidèle à moi-même, je tenais à avoir le dernier mot. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, je suis une femme assez grande, mon cher mari. Je pèse environ 57 kilos, du moins la dernière fois que je l'ai constaté. Tu es un oiseau, en l'occurrence un faucon, et tu ne dois pas peser plus qu'un ou deux kilos, je pense. Dans ce cas, comment as-tu réussi à me porter sur ton dos ?
Je t'ai porté sur mon dos,
a-t-il simplement affirmé avec un hochement de tête. Et je n'ai pas eu le dernier mot. Je chéris donc mes relations avec Jacques Babi, qui incarne une réalité à laquelle je m'identifie plus facilement, bien qu'il vive lui aussi dans le monde dit véritable et qu'il ne réfute pas les croyances de ceux qui nous entourent ici. Je lui ai demandé si, selon lui, des hommes, des femmes, étaient capables de se transformer en animaux.
« Certains, oui, bien sûr »,
m'a-t-il répondu, vaguement étonné par ma question.
« C'est l'héritage d'une longue tradition. » Les Indiens entretiennent des relations beaucoup plus étroites avec la faune et la nature que nous autres Blancs.
Ce qui implique que vous, notamment, ne pourriez pas prendre la forme d'un animal ? D'un faucon, par exemple ?
Certes non !
S'est-il esclaffé.
Je ressemble à un volatile ? Nos aptitudes respectives sont nettement séparées par des frontières psychologiques et culturelles.
Je vous verrais mieux parmi les ursidés. Faire l'ours ne vous tente pas ?
« Non »
a-t-il ri de nouveau.
« Je suis incapable de me changer en animal. Seuls les natifs y parviennent, et encore un petit nombre d'entre eux.